I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Anna, bienvenue dans ce nouvel épisode de Contre-soirée. Alors les amis, déjà, est-ce que vous avez remarqué ma régularité ? Excusez-moi, je suis devenue podcasteuse pro. J'ai fait 2 semaines d'affilée. Cet épisode, il est particulier parce que c'est mon premier épisode en duo. J'ai invité quelqu'un sur ce podcast. C'est ce que j'avais prévu. J'avais prévu de faire les 6-7 premiers épisodes seul et de commencer à, pourquoi pas, quand j'en ressentais le besoin, introduire des guests qui allaient étayer mon propos et apporter quelque chose en fait à l'épisode. J'avais pas envie d'inviter pour inviter. Le sujet de cette semaine, il me travaille depuis un moment, depuis à vrai dire que je suis devenue influenceuse à plein temps et que mes études se sont terminées, donc il y a 1 an et demi à peu près. Je vis de cette activité et du coup j'ai envie qu'elle soit la plus légitime et la plus cohérente possible. Je réfléchis tous les jours à ce que je peux faire pour que ce que je produis soit utile, que ce que je fournis comme travail soit assez et j'ai envie que mon nom soit respecté. J'ai envie en fait que cette activité, même si elle a ses défauts, évidemment, même si elle a ses travers, soit respectée comme toutes les autres activités, comme tous les autres métiers. Donc quand le complément d'enquête sur l'influence de télé-réalité est sorti il y a quelques jours de ça, j'ai ressenti vraiment le besoin de m'exprimer à ce sujet-là. Non pas pour taper un scandale et dire que j'étais excédée si un peu, mais j'ai ressenti en fait le besoin d'en discuter partout autour de moi et d'en discuter avec, pourquoi pas, un invité sur ce podcast. La personne qui m'a semblé évidente, ça a été Bastos. Bastos qui a été un candidat de télé-réalité il y a de ça 6, 7, 8 ans. Il a commencé par Secret Story, il a continué avec Moundir et les Apprentis Aventuriers. Je trouve que c'est un profil parfait parce qu'il représente l'amalgame entre les candidats de télé-réalité et l'influence. L'influence de télé-réalité et l'influence régulière. Vous allez voir que dans cet épisode, on cherche un peu à savoir où est-ce qu'on va avec ce milieu-là. Est-ce qu'il faut nous différencier ? Est-ce que ce qu'on a dit de nous dans ce complément d'enquête était normal ou pas ? En tout cas, j'ai invité Bastos pour qu'il me parle de ce que lui sait sur la télé-réalité et sur l'influence et pour qu'on compare tous les deux nos parcours et nos visions des choses. Je vous laisse avec l'épisode, j'espère qu'il va vous plaire. Soyez tolérants avec moi parce que c'est ma première fois en duo, donc ce n'est pas parfait. Mais je vous laisse quand même avec, allez ! Si tu veux bien poser ton téléphone, merci.
Ah, maintenant c'est moi qui vais me faire engueuler.
Ouais, alors, là ça a pris beaucoup de temps cette installation.
8h55.
Bastos est dans une humeur taquine, voire désagréable.
C'est exactement ce pourquoi on est venu.
Exactement, on est venu crier une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui, de quoi on va parler Bastos ? Déjà, sache que c'est mon premier podcast en duo.
Ah, j'ai cru que t'allais me dire c'est mon premier podcast.
D'où un peu et les ça aurait été... ouais, voilà. Non, c'est mon premier podcast. T'as jamais écouté mon podcast ?
Non, jamais. Je sais que tu fais des podcasts et ils sont assez célèbres dans
le milieu.
Ouais, dans le milieu. J'en ai entendu parler par plein de gens.
Dont ? Ça m'en regarde pas.
Si, j'en ai entendu parler par des gens que je ne vais pas citer.
D'accord. Passons à la suite. Je vous ai fait un peu une intro pour vous expliquer quel était le sujet. Est-ce que je serais pas en train de le piéger à son tour ?
De toute façon, je ne t'ai pas demandé le sujet, donc...
Tu sais le sujet. Le sujet est l'influence. Actuellement, on est sur une gestion de crise.
On a décidé de traiter vraiment un sujet très large.
Qui va se resserrer au fur et à mesure. Donc là, en fait, il faut savoir que durant tout cet épisode, je vais essayer de me sortir de la noyade, car Bastos me noie toutes les 2 secondes.
Ah non, bah non, je serais taboué.
Ah, merci. Donc, Tanginite Gate, c'est catastrophique. Tout le monde est très énervé. Est-ce que on pourrait rapidement retracer notre parcours ? Toi, est-ce que tu peux me dire comment t'en es arrivé à être sur les réseaux sociaux ? Pourquoi t'es pas resté à la télé ? Ou pourquoi t'es pas devenu maçon ? Pourquoi tu t'es dit Instagram, YouTube et tout, ça a l'air sympa ?
Ça s'est fait vraiment petit à petit. D'abord, je me suis retrouvé avec des abonnés parce que j'ai quand même commencé par la télé-réalité. J'ai commencé par le mannequinat, j'en avais quelques-uns, une cinquantaine de milliers. Puis la télé-réalité, une cent cinquantaine de milliers. Et puis, au bout d'un moment, ça m'a pas plu, la télé. Ça m'a fait beaucoup de mal.
Et j'ai dit,
c'est difficile hein, d'avoir sa vie privée jetée en pâture à la merci de quelques producteurs mal intentionnés.
Ce qui n'a rien à voir avec l'influence où on penserait qu'on jette notre vie privée à la pâture, mais ce n'est pas le cas car...
Si, aujourd'hui je le fais. Aujourd'hui j'ai décidé de reprendre ça en main, mais au moins je le fais.
Tu le contrôles.
Ouais, et puis c'est dans mes propres intérêts.
Ok. C'est très grave. Bon, c'est un autre sujet d'ailleurs dont on parlera peut-être plus tard. Mais bref, tu avais envie d'être... en possession de ton image et de tes moyens.
Voilà. Et du coup, j'ai décidé de quitter la télé après deux télé-réalités, Secret Story et Les Apprentis Aventuriers, pour me lancer dans l'influence.
Est-ce que ça t'est pas un peu, au final, tombé dessus au fur et à mesure ?
Exactement, parce qu'au départ, l'objectif, c'est de faire de l'influence mode sport outdoor. Sur Instagram uniquement.
Oula, mais donc, c'est niche en plus.
Voilà, c'est niche. C'était ma passion. Okay. C'est toujours. Maintenant, c'est une passion que je mets plus trop en avant sur les réseaux sociaux. Il en reste un peu avec toute l'histoire de la van life, etc. Et puis, je surfe beaucoup, je le montre un petit peu. Mais c'est vrai que c'est plus du tout le sujet de mon travail. Et puis, petit à petit, ça a évolué. J'ai vu très vite que ça n'a pas marché. Parce que, comme tu dis, c'est niche. Donc, l'audience est niche. Et le problème avec les réseaux sociaux, tu le sais, l'algorithme favorise les gens qui croissent, mais pas les gens qui stagnent. Et je me suis dit, soit je meurs avec mes belles passions et mes beaux principes.
Dans la nature et en riant et en buvant de l'eau.
Voilà, exactement. J'arrivais à un super moment où la mode et les sports outdoor se combinaient
parfaitement.
Tu avais des collabs entre Supreme et Louis Vuitton. Tu avais des collabs entre The North Face et tu vois.
Ouais.
Donc, et ça n'avait pas existé avant. Du coup, j'arrivais au moment parfait. Tu vois, exactement. Donc, je gagnais de l'argent. Tu vois,
okay.
Genre, et puis les marques mainstream qui adoraient avoir ce petit côté homme moderne de la nature, tu vois, voilà, exactement. Ouais. Donc je gagnais beaucoup d'argent, mais le truc c'est que l'argent ça continue que tant que tu as de l'engagement sur les réseaux sociaux. Au bout d'un moment, tu meurs si t'intéresses pas les gens. Mes likes baissaient et je me suis dit tant pis, j'abandonne ça et puis on va faire autre chose. Je suis rentré dans la polémique. D'abord, j'ai dénoncé les placements de produits. J'ai été un peu le premier à le faire.
Du coup, in fine, là, t'es précurseur et...
J'étais un peu le premier à dénoncer les placements de produits abusifs, les influenceurs panneaux publicitaires qui font 6 placements par jour.
Ça veut dire que ça existait déjà il y a 5 ans et qu'on n'était pas réveillés il y a 6 ans.
Ça existait il y a 10 ans même.
Non,
ça a commencé il y a 8-10 ans.
Pour avoir commencé il y a 10 ans, je pense que les prémices du placement de produits, c'était en effet il y a 10 ans. Le placement de produits abusif, pour moi, c'est arrivé avec plus ou moins la télé-réalité.
Ouais, il y a 8 ans.
Ouais, moi j'ai commencé il y a 11 ans en vrai. Donc,
Ouais, c'était il y a 8 ans. Parce que je me rappelle, parce que quand je faisais les apprentis aventuriers, il y avait un peu les premiers à se gaver, les Fidji, les Kevin Gage, etc.
Ah, déjà ?
Ouais, qui se gavaient déjà. Je me rappelle, on parlait déjà des salaires moyens que Magali Berda payait en flat à certains influenceurs.
Et
Jessica Thivenin touchait depuis un ou deux ans plus de 30 000 euros par mois. Tu vois, je m'en rappelle vraiment même des chiffres, ce qui était rien par rapport à aujourd'hui. Ouais.
Mais ce qu'on sait pas, c'est que il y a deux façons de fonctionner pour la rémunération dans l'influence. La façon de fonctionner qui est habituelle pour nous, en tout cas, c'est à la collaboration, à l'opération, voire étendue sur une année, mais en cas par cas. Et dans des agences comme celle de Magali Berda, on parle de collaboration en flat.
Voilà, elle peut proposer un fixe, ouais. Elle peut proposer un tarif fixe.
Mais ce qui signifie ?
Ce qui signifie que, voilà, si elle te le propose, c'est soit qu'elle veut t'enlever à l'agence concurrente. Et qu'elle va décider de te payer à perte, soit...
Ah, c'est pas la norme. Pas forcément.
C'est pas forcément la norme, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui préfèrent.
Et du coup, si tu me dis, si Magali demain me dit « Ok, Anna, tu te mets à 100 000 par mois, il faut que j'accepte chaque OP qu'elle me met sous le nez. »
Voilà, après, t'es à sa merci. C'est-à-dire que tu n'as plus de droit de regard, tu vois, et c'est un peu ça le problème.
Ouais, complètement. C'est là où on voit que du coup, c'est plus cohérent du tout et qu'on se retrouve à être dans des situations.
Exactement.
De crise.
Donc, moi, c'est ça que j'ai dénoncé.
Ok.
Parce que justement, si on te propose un fixe, c'est que tu n'as pas de droit de regard, c'est que tu vas faire la pub de tout et n'importe quoi, sans aucune éthique, sans aucun, tu vois, sans aucune morale. Et donc, proposer à des gens qui te font vivre des trucs que tu ne recommandes pas forcément de manière honnête.
Est-ce que toi, ça t'est jamais venu à l'idée de te dire « Argent facile, ok, vas-y, pourquoi pas, on y va ?»
Non, mais après, moi, j'en ai jamais manqué, donc c'est facile pour moi. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas né dans une famille pauvre.
C'est tentant de se dire...
Voilà, où c'est tentant et où on se dit bah, « Il faut s'en sortir quoi qu'il arrive, et le jour où on peut se gaver, on se gave parce qu'on a beaucoup souffert. »
Certes, après, ces gens-là, du coup, visiblement, ont depuis plus de 7-8 ans... fait cette pratique-là, donc maintenant normalement ils sont plus dans la misère, ils ont de quoi vivre et ils pourraient peut-être changer leur façon d'étudier les choses, donc c'est que ça leur pose pas tant de problème que ça.
Bon, après il y a aussi, alors il faut que j'arrête de les défendre, mais en vrai il y a une vraie addiction au niveau de vie, c'est-à-dire que une fois que t'as acquis un niveau de vie tu vois, de bling bling, d'excès et machin, c'est difficile de revenir en arrière, tu vois.
Mais après c'est, j'arrive pas, j'ai pas les chiffres de ces personnes-là, après c'est très général. Mais globalement, on vit aussi très bien. Je suis pas encore à Dubaï avec une Lamborghini, mais on vit très bien notre vie et pour autant.
Mais tu vis très bien, mais tu n'as pas les mêmes besoins. Ils se sont créés des besoins qui
sont inatteignables.
Coûtent une fortune. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, je vis pas dans une villa gigantesque.
Tu vas te mentir, nous sommes dans ton penthouse, dans le 16e.
Ouais, il est petit.
Non, c'est un très
et
beau penthouse.
Et il est à répu. Et oui. Puis, il y a pas ma Lambo garée dans le garage en bas.
En effet. Mais ce qui me tracasse aussi, c'est que je me suis rendu compte que du coup, parce qu'ils font de la surproductivité, ils ont un kit média, ils ont un prix de base fixe, beaucoup plus bas que le nôtre.
Ah oui.
Alors qu'ils ont un taux d'engagement. Bah, enfin, est-ce qu'ils ont un bon taux d'engagement ? Non, ils ont une visibilité quand même supérieure à, en tout cas, la mienne.
Ils ont un taux d'engagement qui est propre quand ils sont en diffusion, étant donné qu'ils n'ont pas d'autres moyens d'apparaître. Tu vois, ailleurs que sur Instagram, qui est aujourd'hui un réseau social complètement saturé, c'est difficile de buzzer aujourd'hui sur Insta pour une personne de télé-réalité si elle ne se marie pas ou qu'elle ne fait pas un bébé. Mmh. Clairement, ils sont dépendants de la télé-réalité. C'est pour ça qu'ils sont aussi à la merci des producteurs. Et quand ils sont en télé, leur taux d'engagement est haut. Lorsqu'ils ne sont pas en télé, ils baissent drastiquement. Prenons Adixia.
Ouais, très bien. Adixia, quand elle n'est pas diffusée, elle est en mode, oula, c'est un peu la cata, ou alors elle est en mode, bah, là, mes stats ont baissé de moitié.
Ouais, voilà.
Donc,
ça.
Est-ce qu'on peut considérer que le terme influenceuse, lui, est applicable, sachant que, du coup, ce qui l'a fait briller, ce qui fait qu'elle fonctionne, c'est la télé, et c'est tout un autre métier qui est, comment on appelle ça, participant de télé-réalité, comment ça s'appelle ?
Ouais, candidat de télé-réalité. Oui, je pense qu'on peut quand même considérer que c'est une influenceuse, étant donné que, bah, pendant la moitié de l'année, elle influence. Tu vois, et puis pendant l'autre moitié, elle influence moins de gens, mais elle influence quand même des gens. Tu vois, à partir du moment où tu as de l'influence et où tu es capable de dire à quelqu'un d'acheter et il achète, tu es influenceur.
Du coup, c'est là où on remet en question le terme influenceur. En ce moment, moi, ce terme-là, il me casse les oreilles, alors que c'est hypocrite parce que c'est le terme qui me correspond.
Non, il est général, en fait.
Mais je trouve qu'il est trop général, justement. Pour des gens comme toi, par exemple, qui a eu l'intelligence de se dire « Je vais pas juste placer des trucs sur Insta, je vais développer... » une chaîne YouTube où je vais créer des concepts, je vais mettre en perspective plusieurs trucs pour montrer que j'ai une personnalité, que je sais faire rire, que je sais faire pleurer, que je sais faire réfléchir. Créer, tu vois, tout un concept autour de toi, une DA, proposer des live Twitch, des machins. Bref, t'as créé un univers autour de toi qui n'est plus juste du placement de produits sur Instagram et des stories tous les matins pour dire « Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien ». Est-ce que tu considères que ton rôle, c'est le même que celui de n'importe qui fait de la télé et qui ne te va pas plus loin que ça ?
Non, clairement c'est mon rôle, c'est pas le même. Voilà, j'ai plein d'autres activités. Maintenant, toutes ces activités, c'est la manière d'être indépendant, c'est-à-dire de ne plus dépendre de l'exposition de la télé, de ne plus dépendre de l'exposition, par exemple, d'être invité sur les chaînes YouTube des autres. Je ne dépends plus que de moi. Mais nous sommes tous influenceurs. C'est le terme général, comme par exemple, on est tous des humains, mais on ne vaut pas tous la même chose. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est pareil. Je suis d'accord avec toi, mais moi, ce qui me dérange, c'est que du coup, c'est vu que c'est un nouveau métier, entre guillemets, c'est un peu une question de regard des autres, hein, au final, mais de crédibilité aussi. Je trouve que du coup, on n'est pas crédible au quotidien.
Tu penses qu'ils blessent notre crédibilité par leur comportement?
Exactement, mais je pense
ça,
pas,
c'est
je
sûr.
Suis sûr.
Mais de la même manière que un chasseur ou un pollueur ou un PDG qui s'en fout de ses employés blesse la crédibilité des êtres humains. Tu vois ce que je veux dire? Et...
voilà, le débat est clos. Merci.
Non, mais tu vois,
mon problème
c'est
est réglé.
C'est en fait,
mais
c'est,
oui, mais moi, je suis
c'est
pas
un
d'accord.
mot général pour englober tout le monde, mais à partir du moment où ils influencent et où ils ont une influence, c'est-à-dire que dans leur comportement, il y a une répercussion sur le comportement du follower ou du consommateur, c'est un influenceur.
Est-ce que tu trouves que le terme créateur de contenu est-ce qu'il existe déjà? Et est-ce que c'est se voiler la face que de dire non, moi je crée du contenu, je suis pas influenceur?
Ouais, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas te répondre s'ils décidaient de rentrer dans ce débat, ce qui m'étonnerait?
C'est vrai, rentrer dans
est-ce qu'ils ne peuvent pas te répondre? Bah, moi aussi je suis créateur de contenu parce que je fais des stories et je poste une photo par semaine sur mon Insta. Tu vois, et finalement, c'est aussi des créateurs de contenu. Mmh. C'est des mauvais créateurs de contenu, mais c'est des créateurs de contenu. Là où on pourrait, je sais pas, on pourrait trouver un mot, c'est je sais pas moi, un renouveleur d'engagement, tu vois. Parce que par exemple, ils sont incapables de renouveler leur engagement. C'est-à-dire que sans la télé, leur engagement baisse et puis ils disparaissent. Un renouveleur d'engagement, c'est pas mal comme
c'est
terme.
C'est trop spécifique, personne va comprendre encore. Déjà que personne nous comprend. Moi, c'est pour moi une problématique et j'ai pas envie de. Je sais pas pourquoi, ça me tient à cœur qu'il y ait une différenciation, que mon profil ne soit pas considéré comme celui de Mila Jasmine, par exemple.
Je vais te dire un truc. Moi, je n'ai jamais considéré que mon travail, c'était de faire des placements de produits. Enfin, je veux dire des...
Mais à la fois, c'est ce qui
de
rapporte
faire
ton
de
argent,
la pub,
donc est-ce que par définition, ce n'est pas ton travail?
Bah, moi, mon travail, je considère que c'est de divertir les gens, d'apporter quelque chose à différents débats, tu vois, aujourd'hui sur Twitch. Mon travail, c'est ça. Après... Le placement de produits, le placement de marque, la publicité, c'est une conséquence positive, une conséquence heureuse. C'est vrai que ça me fait gagner de l'argent. Je suis du type à avoir toujours raconté à tous mes copains ce
à
qui n'allait pas.
Et vu que t'es ta
communauté, aujourd'hui, j'ai plein de copains.
Non, mais par contre, moi, je suis d'accord avec le fait que c'est très intéressant et c'est plus simple du coup quand on fait ce qu'on fait en étant transparent et en exposant, enfin en parlant de tout ce qui nous arrive, c'est beaucoup plus simple parce que du coup, tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire. Au final, ton quotidien et ton gagne-pain et ta façon de communiquer.
Voilà, je suis dans
communiquer.
Le tout ou rien. Après, ce n'est encore pas un gagne-pain. Moi, ce que je...
Ça crée ton engagement.
Ouais, ça crée mon engagement. Mais ce que je vais dire, c'est que pour moi, divertir le plus de monde possible, c'est beaucoup plus important aujourd'hui. Et c'est peut-être une addiction et peut-être que je suis malade et qu'il faudrait que j'en parle. C'est beaucoup plus important que l'argent que ça peut rapporter. Tu vois ce que je veux dire?
Okay.
Si ma communauté croît et que mes gains décroissent, je suis très content. Si l'inverse arrive, je suis très inquiet. Tu vois ce que je veux dire?
Et l'inverse peut arriver.
L'inverse arrive en ce moment même. C'est-à-dire que là, ce mois de septembre, je fais peut-être les plus gros gains que j'ai fait en un mois de toute ma carrière. Mais mon engagement a décru par rapport à la fin de l'année scolaire dernière. Tu vois, il y a toujours un décalage. Quand tu cartonnes, le temps que les clients s'en rendent compte, ça prend quelques mois. Et tu peux être en train de cartonner moins au moment où tu gagnes plus d'argent. Maintenant, ce décalage, à un moment, il se rééquilibre.
Bon, bah attendons 2-3 mois, on se retrouve et on verra si tout va mieux.
Si je suis sur la paille.
Si tu es à la rue et on réglera le problème à ce moment-là. Pour revenir sur le complément d'enquête, je me suis fait insulter en arrivant car je n'ai pas regardé le live de Bastos qui...
Et que t'étais en retard.
Non, mais j'étais en retard de 6 minutes parce que j'ai acheté des croissants car... Ah oui, on l'a pas précisé, il est 8h50 du matin, là il est 9h15, j'ai jamais parlé à une autre personne si tôt dans ma vie, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Pourquoi toi t'as ressenti le besoin de parler avec la réalisatrice de ce documentaire, si visiblement t'as l'air d'être plus ou moins en paix avec le fait que tes collègues aient des pratiques un peu malfaisantes, même bien que tu les aies démontrées, dénoncées.
Ouais. C'est bizarre qu'ils restent mes copains.
Je ne te gêne pas d'ailleurs, parce que tu sais comment leur parler je pense, t'arrives à un moment ou à un autre à leur... rentrer dans le cerveau. Et puis t'es rigolo, donc ça fait rire les gens, ils ont envie de rester à côté de toi. Au final, ils oublient ce qui s'est passé.
C'est gentil, merci.
Avec plaisir. Du coup, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui te plaît pas?
Bah en fait, écoute, ça va peut-être te surprendre, mais je n'ai jamais ressenti le besoin à parler à Rizlan Celica, parce que j'estime vraiment que son reportage était mal fait. Ouais, non, mais c'est la vérité. Il était mal fait. Non, c'est pas une balle perdue, parce que je lui ai dit... toi tout à l'heure t'as dit Magali Berda nous a encore enfoncé. Pour moi c'est Rizlen qui vous a enfoncé. Magali Berda elle a jamais prétendu faire autre chose que ce qu'elle fait. Tu vois ce que je veux dire? Et elle a jamais prétendu s'occuper de tous les influenceurs du monde. Elle a prétendu
la mise en lumière de Rizlane qui est pas qualitative.
Donc c'est Rizlane qui nous a mis tous dans le même sac, et c'était pas son intention. Son intention, à tort, c'était de faire du buzz, c'était de faire voir son documentaire. Et ça se voit c'est dans le documentaire. C'est un documentaire à sensation. C'est-à-dire que elle appelle ça l'influence. Elle ne couvre que la télé-réalité. Pour moi, rien que là, il y a déjà un énorme problème. Tu vois
et
ce que
surtout
je veux dire
dans ce documentaire, au final, pour peu que, ok, on peut accepter d'être qualifié, enfin, tu vois, que tout soit mélangé et tout. Au final, on n'apprend pas grand-chose, on n'avance pas trop dans le débat. On répète ce qu'on répète depuis 2, 3, 4, 8 ans.
On parle d'arnaques et de problèmes qui existaient il y a 5, 6 ans. On parle pas des nouvelles. Qui aujourd'hui, le dropshipping, le dropshipping ne rapporte plus rien. C'est-à-dire que plus personne ne fait confiance au dropshipping. Tu vois, tout le monde a compris la magouille et tout le monde connaît AliExpress. Tu vois.
Donc c'est plus rentable.
Voilà, aujourd'hui, il y a d'autres.
Quelles sont ces autres arnaques?
Il y a d'autres arnaques, il y a d'autres manières. Les CPF, la crypto, les NFT, les cours de finance, tu sais, genre les trucs de copie machin sur Telegram, que d'ailleurs Snap, Insta ont interdit et pour lesquels les influenceurs trouvent des moyens de contourner l'interdiction. Tu vois, c'est-à-dire, par exemple, un jeu concours. Je fais un jeu concours et je dis que pour jouer, il faut s'inscrire sur mon Telegram. Et puis après, sur mon Telegram, je propose des cours de finance. Tu vois.
Mais du coup, là, on est même plus sûr. Ok, machin, ils vendent un produit qui est un peu naze et il fait genre que le produit est bien alors qu'il l'a même pas testé. Elle fait semblant de boire son thé. C'est vraiment ton métier est d'arnaquer les gens. Enfin, c'est vraiment de l'arnaque pure et dure. Quoi. C'est vraiment des processus.
Ah, c'est des gens qui...
C'est une formation presque.
C'est des gens qui n'ont vraiment pas de scrupules, tu vois. Pas de scrupules. Après, c'est pas Magali Berda qui fait la promotion de ces choses-là non plus, tu vois. C'est-à-dire que Magali Berda ne fait pas de crypto, elle fait pas de NFT, elle fait pas de cours de finance. Mais il y a des influenceurs qui, je peux te dire, il y a un an et demi, avec ces histoires de finance machin, qui sont en fait... pour beaucoup des pyramides de Ponzi déguisées, y a des influenceurs qui empochaient plus de 100 000 euros par mois, rien qu'avec leur groupe Telegram. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est fou.
On est à plus de 100 000 euros par mois. Donc, on est dans d'autres sphères que ce que rapporte aujourd'hui le petit dropshipping est quasi mort, tu vois. Et c'est de ça qu'on parle dans le documentaire. Pour moi, en fait, ce documentaire, on a l'impression qu'il a été fait en 2005.
Ouais, genre, il a le droit de sortir maintenant.
Voilà, il survole un peu 50 000 problèmes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
À la limite, ça aurait dû être 6 épisodes pour qu'on creuse vraiment le sujet.
Bien sûr.
Quand j'ai crié en disant qu'on nous mélangeait tous, tout le monde m'a dit qu'ils avaient précisé au début qu'on parlait de l'influence de télé-réalité.
Ouais, mais c'est pas dans le titre.
C'est pas là, voilà, c'est ça.
C'est pas dans le titre. Et puis, clairement, moi, en le regardant, j'ai pas cette impression. Après, voilà, moi, je suis parti pris dans cette histoire. C'est-à-dire que je suis pas en train de défendre mon steak en disant on nous a tous mis dans le même sac alors que je fais quelque chose de vraiment différent. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train juste de dire que ce reportage, il est pas exhaustif. Il a survolé des tonnes de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Parce que comment tu peux mettre les ravages de la chirurgie esthétique dans le même documentaire que les placements de produits abusifs? Tu vois, genre ça n'a rien à voir.
C'est vrai que la ligne édito est floue, enfin, est border.
Mais en fait, ce que c'est, et je te le dis maintenant, c'est une fan de télé-réalité qui a voulu faire un reportage à sensation. Rizlane, elle nous a dit pendant le live qu'elle s'était intéressée à la télé-réalité et du coup, elle avait regardé des télé-réalités pour faire son reportage, tu vois, en se disant « je vais en apprendre ».
C'est faux.
C'est faux, pas du tout. Rizlane
connaissait les Marseillais à Rio.
Rizlane m'a parlé de mon ex, et pas de mon ex toute récente, de mon ex d'avant. Tu vois, Rizlane connaît ma vie.
Ok.
Voilà. Et Rizlane m'a demandé.
Rizlane s'est peut-être très bien documenté et a passé 3 semaines à regarder chaque épisode.
Voilà. Je ne pense pas que la trame éditoriale des Marseillais soit d'une grande aide dans un complément d'enquête sur les dérives de l'influence.
En effet. Bon, bah c'est raté pour Rizlane.
Je pense que par rapport à ce complément d'enquête, comme tu dis, il aurait fallu faire plein d'épisodes et il aurait fallu beaucoup plus les cibler. C'est-à-dire Par exemple, la fuite fiscale des influenceurs à Dubaï.
Ça n'a pas été abordé. Si, ça a été abordé, mais en surface.
Ça a été abordé, mais ça a été abordé en surface. On a juste vu un gros gogol en train de dire moi, ça me fait chier quand je travaille d'avoir pas tout l'argent. j'ai envie d'en redonner à personne. Il dit un truc comme ça.
Oui, c'est vrai. Mais qui sont ces gens d'ailleurs? Il y en avait deux là, ils ont été scandaleux.
Ouais, ouais, bah, des TikTokers.
Ok.
C'est des TikTokers. Donc, c'est des influenceurs qui ne sont pas des gens de télé-réalité.
Ce genre
quand même.
De phrase. Ouais.
Tu vois?
Ce genre de phrase. Même si tu le penses et même si c'est ta façon de penser tous les matins en te réveillant, ce qui est le cas, ça veut dire qu'ils n'ont pas la même évolution de pensée, mais tu ne peux pas dire des phrases comme ça.
Encore une fois, c'est un reportage à sensation, c'est-à-dire on a été prendre un gars, genre...
Le plus dramatique voilà, possible, qui allait nous dire la plus grosse dinguerie.
Et là, pendant ce temps-là, Rizlaine, dans la salle de montage, elle était là. Oh putain, on va faire le buzz ! C'est du pain béni !
Est-ce que tu penses que Rizlaine, pour interviewer tous ces gens... Elle est arrivée avec la vraie cause et le vrai nom de, tu vois, de...
Ah, là, il y a débat. Elle dit oui. Il y en a qui disent que non.
Je peux pas le croire.
Difficile. Maintenant, après, tu vois, genre, pour ça, moi, je suis moins choqué. C'est-à-dire que c'est un complément d'enquête. C'est le service public. Tu vois ce que je veux dire ? C'est le service public. Tu as un peu le droit de faire à peu près tout ce que tu veux. Il n'y a pas de droit d'image, par exemple. C'est quelque chose que j'ignorais, mais du coup je me suis renseigné parce que voilà, en voyant tout ça, je me suis dit oula, c'est fou ce truc où finalement les gens, une fois qu'ils ont parlé à la cam, ils décident plus de rien. Là où je suis plus choqué, c'est par exemple, tu vois, Luna est une victime, une victime clairement de cette tendance à abuser de la chirurgie, une victime probablement de son chirurgien, une victime de plein de choses, et elle a vraiment accordé sa confiance à la réelle de ce reportage.
Est-ce que tu trouves que le ton qui a été employé était négatif ? Je trouve que elle, Natania, il y en a quelques-unes qui ont été plus mises en valeur comme des victimes. Après, en effet, avec tout le ton abus de chirurgie et un peu c'est de sa faute et qu'est-ce qu'elle est crue.
C'est un peu ça le problème, tu vois. Okay. C'est un peu ça le problème. Elle a accordé sa confiance. Tu vois, de la même manière que oui, il faut aller enquêter. Tu peux pas la faire passer même en partie pour une cruche. Qui fait de la merde, tu vois ce que je veux dire, c'est pas cool.
Surtout que tu peux pas reprocher aux gens de pas avoir d'éthique et après toi-même appliquer ce manque d'éthique là. Moi, ça me donne envie que on prenne nos caméras. Ces sujets, ils sont hyper intéressants en plus, c'est même de l'influence éthique et de l'influence responsable, tu peux le mettre en lumière ou le démettre en lumière, il y a plein de trucs à dire.
Grave, non, ce serait hyper intéressant.
Et le titre de la série est déjà tout trouvé, ça cartonnerait en plus.
Non, c'est sûr. Et puis, il y a beaucoup plus de choses à dire et des choses beaucoup plus intéressantes que celles qui ont été dites.
Pourquoi pas mettre en contradiction ce qu'on fait nous, ce qu'on fait peut-être mal nous aussi, et ce qu'eux font bien et ce qu'eux font mal. Enfin, en tout cas, montrer plusieurs aspects, plusieurs facettes, plutôt que de diaboliser absolument tout et de montrer que le visage de la magaloche...
Mais diaboliser, c'est plus vendeur. Et là, en fait, le problème, c'est toujours le même.
De la part
le
d'un problème, média comme ça.
Voilà, exactement. Le problème, c'est qu'on est sur France Télévisions.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire ? Qu'un YouTuber essaye de faire du clic qui soit putaclic comme je peux l'être à certaines occasions. Oui, non, mais il faut se remettre en question. Et je me remets en question aussi, tu vois
après,
ce que je veux dire ?
Après, c'est un levier. T'as souvent pas le choix d'être un peu putaclic.
Voilà, souvent, il faut être putaclic pour que les gens découvrent à quel point ton contenu est bon. Mais France Télévisions ne peut pas se permettre de faire du putaclic comme ils l'ont fait là.
La preuve que ce documentaire est quand même adapté à une chaîne YouTube scandaleuse, c'est que c'est des mèmes à répétition.
Exactement.
Sur Twitter, je vois que ça, TikTok,
Ils ont fait ça, ils ont fait un reportage, tu vois, avec la tendinite au bras, que des mèmes. Il y a que des mèmes. Ils ont essayé.
Ça t'a pas fait, t'as pas esquissé un sourire une minute, t'as été exaspéré par.
Non, mais oui, c'est drôle. Mais c'est même pas nous que ça dessert, en fait. Dessert l'information.
Et la crédibilité de France Télévisions. Je sais pas pourquoi c'est mon combat, parce qu'en effet, on pourrait se dire, bon, bah, moi, je suis à l'aise avec ce que je fais, je sais que je suis différente de ces personnes-là, mon métier, c'est plus de divertir que de placer des produits, mais j'ai envie qu'on soit légitime aux yeux d'hommes de 50 ans qui n'y connaissent rien. Genre, je pense qu'en plus, la cible de ce complément d'enquête, après, elle a été un peu modifiée parce que Booba a pris la parole et machin et trucs, et du coup, ça a rapporté plein de gens dessus. Mais de base, la cible, c'était quand même Patrick, 56 ans, qui regarde le complément d'enquête le dimanche soir avec sa femme dans le canapé. J'aimerais qu'ils se disent pas. Que
toi, t'as envie que Patrick aille sur Fruit.
J'ai envie que Patrick s'abonne.
Voilà, t'as envie que Patrick te fasse confiance.
Ouais, non, mais j'ai envie que Patrick, quand sa fille elle lui dit qu'elle regarde mes vidéos, il soit pas estomaqué parce que j'ai le corps travaillé au bistouri et que je porte pas ma montre connectée. J'ai
moi, je m'en fous de ça, je t'avoue.
Bah, toi, après, t'es un peu loin de tout ça.
Vraiment, je m'en fiche. Moi, j'ai envie que Patrick, quand il tombe sur ma vidéo, il soit attiré irrésistiblement okay. et qu'il ait envie d'aller la regarder.
Tu vas après, le convaincre,
okay. voilà, je m'en fous que Patrick pense que je suis un enfoiré. Ce que je veux, c'est que Patrick ne puisse pas s'empêcher d'être addict à mon okay. contenu.
C'est une très bonne stratégie. Est-ce que, du coup, pour toi, c'est même pas la peine d'essayer de légiférer ou de... Parce qu'il y a des légiférations qui sont hyper importantes et qui arrivent...
Par contre, je trouve ça hyper important parce que, tu vois ce que je veux dire, j'ai de l'éthique et j'ai des considérations éthiques par rapport au placement de produits, à la publicité, etc. Et je trouve que c'est hyper important que ça évolue. Et d'ailleurs, c'est ce que je défends, tu vois ce que je veux dire, quitte à, moi, y perdre, tu vois.
Parce que là, en prenant parole comme tu as fait et là, en parlant comme ça, est-ce que tu as des risques de... Que non, qu'est-ce que tu risques? Pas grand-chose au final.
Il y a toujours des risques. Par exemple, je risque de plus faire de télé. Tu vois ce que je veux dire?
Mais après,
tu
as déjà pris le risque 100 fois.
J'ai déjà pris le risque 100 fois.
99 fois que ça pouvait remarcher.
Exactement. Maintenant, voilà, il y a des risques. Il y a des risques en critiquant des clients. Il y a des risques en critiquant des agences. Il y a des risques. Il y a toujours des risques. Maintenant, moi, je m'en fous. Je crois que, en vrai, si l'influence s'arrêtait demain... je serais content de faire un autre métier aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave.
Moi aussi, mais je trouve que pendant qu'on y est, autant qu'on fasse ce qu'on peut pour que ça évolue, que ça évolue dans le bon
sens,
je
suis d'accord.
Comme tu le fais d'ailleurs.
Voilà. Qu'il y ait plus d'éthique, plus de régulation, plus de... Et c'est pas contre eux, c'est pas contre ceux qui le font mal, c'est pour les gens qui suivent, c'est pour les gens qui achètent.
Après, peut-être que du coup, ce genre de documentaire, bien que... je ne sois pas d'accord, va apporter quelque chose aux gens qui n'avaient toujours pas compris que c'était problématique d'acheter ce que ces gens proposent et qui, du coup, va faire mourir ce...
Ouais, je pense que ça a beaucoup blessé...
Les finances de la Verdoche.
Voilà, les finances de Magali Berda, mais les finances de tout le monde. C'est-à-dire que, ouais, bien sûr, il y a une perte de confiance.
Est-ce qu'on parle d'acharnement sur Magali Berda ou est-ce que c'est pas le sujet Parce qu'elle a un peu été quand même le fil rouge du truc.
Ah ouais, clairement. Magali Berda, c'est le... On a choisi un visage pour faire un bouc émissaire et c'est Magali Berda. Après,
à la fois,
elle se vend
comme la numéro 1 du truc.
C'est pas anodin. Elle se vend comme ça et elle se vend comme la numéro 1. Maintenant, je trouve que si on est honnête, Magali Berda suit aussi une évolution dans son travail. C'est-à-dire que il y a un effort dans le choix des marques qui arrive de plus en plus.
Tu suis le portfolio de...
Bah ouais, je le suis parce qu'en fait, j'ai toujours eu des copines qui étaient signées chez elle. Donc,
elle est chez John Evans ?
Belle, non. Belle, elle est chez Evans, je crois. Mais je suis l'évolution. Et par exemple, chez Vivi... Je voyais qu'il y avait, tu vois, genre il commençait à y avoir des marques avec des noms que je connaissais.
Sympa,
tu vois ce que je veux dire ? Sympa, je sais pas, mais des noms que je connaissais. Il commençait à y avoir.
Ce qui me chagrine aussi, je te coupe, c'est que par exemple pour une Vivi qui a compris que la télé c'était sympa, mais qu'il y avait autre chose à faire et qui a pas envie de prendre les gens pour des cons, je lui avais dit mais pourquoi tu vas pas chez une agence plus crédible, genre Follow chez qui je suis ou j'en ai plein d'autres.
Bah en fait, peut-être qu'elle a quand même envie un petit peu de continuer à prendre les gens pour des cons.
Non, c'est pas le sujet. Ces agences-là, elles peuvent pas, pour l'instant, avoir ce genre, parce que ça reste une image quand même qui est négative aux yeux de beaucoup de gens. Et du coup, c'est des gens qui sont pas acceptés dans nos, enfin, en tout cas dans mon milieu à moi, d'influence plus entre guillemets clean ou plus respectueuse. Acceptons des talents comme Vivi qui méritent qu'on les fasse évoluer aussi.
Magali Berda évolue, c'est certain.
Est-ce que Magali Berda peut demain signer un L'Oréal, peut demain signer...
Oui, je pense que ça peut venir puisque ça évolue, tu vois ce que je veux dire. Demain peut-être pas, mais après-demain qui sait.
Bah du coup, est-ce qu'on n'est pas un peu scandalisé que tu fasses du journalisme mieux que cette équipe qui a du coup... Parce qu'au final, je sais pas si tu montes beaucoup tes contenus ou quoi, mais je trouve que globalement, tu donnes la parole à qui veut et souvent aux deux parties. Et c'est un peu comme ça qu'il faut continuer à avancer pour qu'on ait un avis clair et qu'il ne soit pas complètement manipulé par... Parce que là, en effet, dans ce documentaire, on voit vraiment Magali Berda comme une diableste.
C'est
avec
superficiel,
des petits suppos
en
autour.
Fait. Dans ce documentaire, c'est superficiel et c'est pour faire de la sensation.
Okay.
Tu vois, c'est vraiment pour qu'on se dise « Wow, non ! Il faut absolument que je monte ce reportage à tous mes amis !» Tu vois, c'est ça.
Vrai, est-ce qu'elle t'a parlé de l'audience et tout et de...
Ouais, et apparemment, c'est pas... crois c'est pas si supérieur. Voilà. Meilleur rediff de. Voilà. Et en plus, sur la diffusion, bon, elle dit que c'est à cause de la mort de la reine. Et du coup, de la. Comment dire, tu sais, ça a été décalé.
Ouais. Ça devait être quoi, le samedi, le vendredi ?
Ouais, ça devait être le vendredi, juste au moment où la reine est décédée. Ça aurait fait des
meilleurs, peut-être. Bon, enfin, à la fois.
Peut-être. Enfin, voilà. En tout cas, c'est moi, je croyais que c'était énorme. Mm. Et en fait, c'était pas si énorme.
C'est parce qu'on est en plein dedans, nous, qu'on a le nez dedans, et du coup, on voit que ça, et on Exactement. A l'impression que tout le monde ne voit
ça
que ça.
Ça nous concerne. Voilà.
Ok. Bon, bah écoute, c'est très intéressant tout ce qu'on s'est dit. Moi, j'ai envie de. Me dire c'est quoi l'avenir de notre milieu, est-ce qu'on a rep ou est-ce qu'on est en mode ça va bien se passer, est-ce que tu t'inquiètes ou est-ce que tu t'en fous, tu te laisses porter, tu verras bien.
Moi je pense qu'il faut plus d'éthique, plus de responsabilisation, tu vois, des influenceurs et je pense que vraiment on va dans ce sens là pas assez vite parce
à la fois c'est compliqué, je sais qu'on se fait beaucoup tacler sur l'écologie, sur toutes ces problématiques-là ouais. qui sont très importantes mais qui sont aussi très compliquées à aborder quand on est attendu au tournant, qu'on n'a pas forcément...
Ouais, mais il faut essayer de faire le mieux qu'on peut et tout le monde devrait essayer de faire le mieux qu'il peut. Tu vois ce que je veux dire ?
Je suis bien d'accord, mais c'est un peu utopiste, quoi.
Non, faire le mieux qu'on peut, c'est pas utopiste. Utopiste, c'est faire parfait.
J'aimerais que tout le monde se dise, il a fait du mieux qu'il peut, fine, genre, c'est bien, et que tout le monde le fasse. Et malheureusement, les gens n'attendent pas ça, les gens attendent la perfection. Enfin, ouais. les gens.
Moi, je pense que c'est pas difficile de demander aux gens de faire mieux, de les sensibiliser, tu vois, genre... Mec, quand tu fais ça, il y a peut-être un foyer qui se met en difficulté et ils ont peut-être des enfants. Et ils ont, tu vois, parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus d'acheter un produit à 14 balles. Tu vois ce que je veux dire ? Aujourd'hui, on parle d'un mec qui va tout investir dans la crypto parce qu'un influenceur lui a dit que... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on parle de plus grave.
Ouais.
Tu vois, on parle de paris sportifs où on dit sans sensibilisation que tu peux gagner ta vie comme ça. Tu vois, on parle de choses beaucoup plus graves où il peut y avoir beaucoup plus d'argent en jeu et ça peut mettre un foyer en difficulté. Bon, bah, quand un influenceur comprend ça et même le moins instruit de nous tous, tu vois, personne n'est foncièrement mauvais. Non. Personne en a complètement rien à foutre. Il y en a qui ne voient pas. Choisissent de pas voir, tu vois. Mais si tu discutes avec lui et que tu le regardes dans les yeux et que tu lui dis que si ça se trouve, il y a quand même des gens qui en souffrent pour que lui, il ait une deuxième lambeau. Est-ce qu'il a vraiment besoin d'une deuxième lambeau ?
Il n'a pas besoin d'une deuxième lambeau, mais est-ce qu'il sait qu'il n'a pas besoin d'une deuxième lambeau ? Est-ce que c'est toi qui vas le convaincre ? En tout cas, tu as raison.
Voilà.
Sensibilisons.
Et puis se concentrer sur, je pense, son contenu. Se concentrer sur voilà, le fait de divertir les gens. Comment on va donner quelque chose aux gens qui va les rendre heureux, les faire rire, les faire kiffer, les instruire. Tu vois ce que je veux dire ?
Parce qu'on fait un métier de divertissement.
Voilà, et il ne faut pas l'oublier. Notre métier, ce n'est pas de faire de la pub. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans une phase. Moi, je me rappelle des
problèmes, justement.
Justement, dans l'influence de sport outdoor et de mode, à l'époque, c'était la mort des magazines. À l'époque, puisque les influenceurs arrivaient et que les gens qui suivent les sports extrêmes, bah aujourd'hui, préfèrent suivre Kelly Slater que d'acheter Surf Mag au bureau de tabac, tu vois ce que je veux dire ? Comme à l'époque. Donc, c'était la mort des magazines et c'était un combat. C'est-à-dire qu'on se retrouvait, nous, influenceurs sports extrêmes, avec la presse, sur des voyages presse, et t'avais des journalistes qui nous détestaient parce que...
Exaspérés.
Voilà, parce qu'ils avaient l'impression qu'on blessait leur business. Je pense qu'au lieu de ça, au lieu de se concentrer sur tu vois, genre les revendications et le combat et machin, etc., bah, ils auraient juste dû se concentrer sur le fait de renouveler leur manière de communiquer, tu vois ce que je veux dire, et d'évoluer. Et c'est ça que nous, on doit faire.
Donc, concentrons-nous pour faire du bon travail, pour continuer à divertir de façon qualitative et de plus éthique possible. Si on peut quand même rappeler de temps à autre que c'est important de faire ça et que l'influence n'est pas que... Après, je pense qu'en fait, les gens finissent par le comprendre. Tu as passé un bon moment ?
Ouais, grave.
Super, je suis ravie. On va tous sur la chaîne de Bastos pour promouvoir des créateurs de contenu et des influenceurs qui font de la qualité et de la quantité, car Bastos est extrêmement actif sur ces plateformes.
Extrêmement quantitatif.
Il est quantitatif. Bref, je vous fais une conclusion en off. Salut à toutes. Bastos m'a dit du coup de vous dire au revoir. Je vous retrouve pour conclure cet épisode. Je trouve que c'était très enrichissant de discuter avec cette personne. Je trouve que ça m'a permis de réfléchir sur le fait qu'en effet, le problème avec ce complément d'enquête, c'est plus là où les personnes qui ont décidé d'aborder ce sujet avec ce ton-là et sous cet angle-là que les personnes qui sont exposées à l'intérieur, bien qu'elles soient très problématiques également. Mais bref, ce qui nous dessert, c'est le format et le ton de ce documentaire. Je trouve aussi que Bastos m'a donné envie d'être plus... d'accepter davantage l'avis des gens et voilà, de faire ce que je peux pour que ça avance sans le vivre mal, parce que c'était un peu le cas ces derniers temps, je le vivais un peu mal. Donc de plus en plus, j'ai envie d'utiliser mes plateformes et ma voix pour faire évoluer ce milieu-là. Mais en même temps, je ne vais pas non plus me faire des cheveux gris, j'ai envie de vous dire, pour la vie des autres. Ce qui est d'ailleurs ce qu'on se dit sur ce podcast depuis un an bientôt. Non, j'exagère. Depuis 6 mois. Pour terminer sur ce sujet-là, j'en ai discuté avec Laure, qui m'a dit quelque chose de très intéressant. Dans le milieu de la musique, on parle de chanteurs. Mais dans cette catégorie qui est les chanteurs, il y a des sous-catégories comme les rappeurs, les chanteuses d'opéra, les chanteurs à voix. Dans tout milieu, il y a des sous-catégories et je pense donc que nous pouvons être qualifiés d'influenceurs comme catégorie première et il faudrait qu'ensuite on trouve des adjectifs pour nous diviser. Non, nous ranger, non plus nous catégoriser en fait, et pour qu'il n'y ait pas forcément d'amalgame qui soit fait à tout bout de champ. Franchement, c'est un sujet un peu spécial et j'espère qu'il n'est pas trop spécifique à ma personne, parce que j'avoue, c'est mon milieu, donc ça me touche, je ne sais pas si ça vous touche autant. J'attends vos retours avec impatience sur Instagram, @annervière. Merci d'encore une fois me suivre et d'avoir tenu jusqu'au bout. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.